Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com.
Aube, épisode 2.
Qu'est-ce qui est nécessaire?
La pyramide de Maslow ressemble aujourd'hui à un cube Rubik où tout un chacun s'amuse à mélanger les facettes de leur mosaïque.
Mais est-ce que tout ça est vraiment nécessaire? La maison, l'auto, le patron, est-ce qu'on se pose vraiment les bonnes questions?
Mais si on passe notre temporalité à acquérir des biens, combien de temps nous reste-t-il pour accomplir notre légende? Comment faire pour se soustraire à la succession de jours et de nuits qui nous empêchent d'accomplir notre idéal?
Dans ce nouvel épisode de Aube, nous nous sommes interrogés sur l'idée de la nécessité.
Les micro-maisons, la simplicité volontaire, le cas du boulanger breton, l'utopie des adamites sont quelques sujets abordés dans cette émission.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience.
Le mot-clé? Nécessaire. Mardi matin, 6h15, le cadran sonne. Je snooze, puis je me rendors.
Mais j'aime pas ça! Travailler!
Quand je rouvre les yeux, je suis déjà en retard. Je trouve des pantalons, puis un t-shirt pas trop sale, puis je cours prendre le métro. Je ramasse un café sur le chemin, puis je grille une cigarette rapide avant de me coincer comme une sardine dans les tunnels de Montréal. Debout entre deux autres gars qui ont la même face que moi, je me décrotte les yeux. Je suis comme, qu'est-ce que je fais là, man? Fait beau aujourd'hui, j'aurais voulu m'étendre au parc, au soleil. Je m'en vais travailler, je le sais, mais pourquoi? Évidemment, ça prend de l'argent. Aujourd'hui, pas d'argent, t'as rien, ou presque. En général, on est assez loin de répondre à nos besoins directement. Comme la plupart, j'ai besoin d'argent pour acheter ma nourriture, mon toit, etc. Puis travailler reste le meilleur moyen d'avoir de l'argent. Ne serait-ce que pour survivre, faut que j'aie de l'argent, donc faut que je travaille. Mais je suis vraiment pas fait pour travailler. Mes amis me disent que je fais ma maîtrise en chilling. Ils ont peut-être pas tort. Je pense que j'aurais fait un bon berger, comme dit mon nom de famille. J'aurais aimé ça être berger. Mener mes moutons de ville en ville. Dormir à la belle étoile, fumer ma clope au soleil en regardant mon troupeau dans le pâturage. Laisser le temps s'écouler. C'est sûr que j'aurais pas la même vie que celle que j'ai aujourd'hui, mais j'aurais tout ce qui est nécessaire. C'est surtout le rythme du travail que je trouve dur à suivre. J'ai l'impression d'être à la course. De pas avoir le temps de faire attention à ce qui est important. C'est sûr que pour bâtir la vie qu'on veut, ça prend des sous. Mais mon verre de café en carton dans les mains, je me dis que je suis peut-être plus en train de détruire que de construire. Je dors mal, je mange une sandwich plate pour dîner, je suis assis sur une chaise toute la journée, les yeux sur un écran. Pour mon environnement, c'est pas le mieux non plus. La quantité de déchets que ça génère de me déplacer, mon verre de café en carton, l'emballage de mon lunch... Puis comme bien d'autres, mon travail consiste indirectement à produire plus pour moins cher, ce qui mène à la destruction de notre planète. Il fait beau aujourd'hui. Si j'étais resté chez nous, j'aurais pu prendre le temps de me faire un café, méditer un peu ou faire de l'exercice. Je me serais cuisiné à dîner, j'en aurais eu trop pour moi, j'aurais pu en donner à des amis. J'avais déjà plein de choses dans mon fridge, ça m'aurait rien coûté, puis ça m'aurait permis de donner. Ça aurait été bien moins destructeur, puis meilleur pour ma santé mentale en tout cas. Barry UQAM, assez rêvassé, c'est la jungle. On doit être plein comme moi à se sentir prisonnier de notre travail. Il y a ceux qui travaillent pour un salaire de crève-faim qui leur permet même pas de sortir de la pauvreté. Ceux qui gagnent pas cher, mais juste assez pour acheter des bébelles pas chères, produites et vendues par d'autres qui gagnent pas cher non plus. Puis même ceux qui gagnent plus. Ceux qui vont jusqu'à la station Square Victoria OACI. Eux aussi, ils ont l'air pris. On travaille tous pour obtenir ce qui est nécessaire. Il y en a pour qui ça veut dire payer le loyer puis la bouffe des enfants s'il en reste. Il y en a d'autres qui ont les paiements de leur condo, l'essence pour leur voiture, un voyage pour lequel ils mettent des sous de côté. Le travail, c'est le moyen. Le moyen qu'on a trouvé pour obtenir ce qu'on veut avoir. Reste que le mot « travail » vient du mot latin qui désigne un outil de torture ou de contrainte. Si le travail sert à obtenir ce qu'on veut, il est peut-être temps de redéfinir ce qu'on veut. Peut-être qu'on veut avoir trop de choses, puis qu'on devrait se concentrer sur ce qu'on veut être plutôt que ce qu'on veut avoir. En sortant du métro, le soleil brille toujours. Je me dis, prison ou liberté, c'est probablement à moi de décider. Moi, je veux être fier de ce que je fais quand je travaille, puis être fier de ce que je suis après le travail. Puis pour ça, c'est sûr que le type de travail que tu fais a de l'importance, mais dans n'importe quel travail, tu peux essayer de faire de ton mieux puis d'être fier de ce que tu as accompli. De toute façon, mon verre de café est encore à moitié plein. Quant à être fier de ce qu'on est, c'est pas toujours facile, faut le reconnaître. Mais le soleil brille, puis aujourd'hui, c'est tout ce qui est nécessaire pour moi. Mon loyer est payé, il y a de la bouffe dans mon fridge. Je vais faire du mieux que je peux, sans me débarrasser, là, en prenant le temps de faire bien les choses. Puis, je vais arriver chez nous tantôt, je me ferai un bon souper, je prendrai le temps de faire du thé, puis de lire un bon livre. I don't know about you, but I know I'd like it better if you give me the sunshine. Il n'y a pas 3000 façons d'avoir des sous. Il faut travailler pour avoir ce qu'on a de besoin. Mais il y a 7 milliards de façons d'être ce qu'on veut. 7 milliards de façons d'évaluer ce de quoi on a réellement besoin pour être fier de ce qu'on est.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Des gens passent leurs heures de prétendu loisir à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Simplement, le bonheur. Depuis quelques années, les gens se préoccupent de plus en plus de leur santé. alimentation, activité physique, développement personnel. Par ailleurs, on rencontre un nombre accru de maladies liées au stress. 80% des maux occidentaux sont causés par le stress. Les médecines, tant traditionnelles qu'alternatives, sont débordées. Et la santé là-dedans? Vivre plus simplement amènerait sans aucun doute la majorité de la population à avoir une meilleure relation avec la vie. Le concept de simplicité volontaire n'est pas nouveau, mais reste méconnu. On la compare souvent à un mouvement radical qui stipulerait tout simplement de vivre de rien, ce qui n'est pas le cas. La simplicité volontaire apporte une solution intelligente à bon nombre de vies malheureuses ou malades. Une vie plus simple équivaut à travailler moins et conséquemment à plus de temps passé avec ceux qu'on aime, à faire des choses qui nous passionnent. Vivre simplement implique évidemment un effort de conscientisation. Il importe tout d'abord de prendre conscience de ce qui bouffe notre temps, mais surtout notre énergie. Mais qu'est-ce qui bouffe notre énergie? Les comptes à payer, le magasinage de Noël, les embouteillages, faire l'épicerie, le ménage, le patron pas facile, les clients chialeux, pas aimer son travail, passer son temps au travail, chercher du travail, bref, la publicité, les nouvelles de 17h, se mettre en colère, se faire du souci, avoir peur, avoir des allergies à cause du système d'aération déficient du bureau, avoir mal au dos depuis 3 ans, parce qu'on est assis 40 heures par semaine au même endroit. La première étape, c'est de faire la liste de ce qui bouffe votre énergie. Faites aussi une liste de ce que vous feriez si vous aviez plus de temps. Passer du temps seul, faire de l'artisanat, de la danse, du yoga, cuisiner, écrire, peindre, lire. Là où la simplicité volontaire devient intéressante, c'est quand les rapports avec l'énergie changent. Le travail, c'est de l'énergie. Souvent, beaucoup d'énergie. Surtout quand on n'aime pas ce qu'on en fait. Il suffit de se demander pourquoi on travaille autant. Pour payer la maison, pour se vêtir, pour s'offrir des sorties, pour payer les comptes, la voiture. On a sans cesse l'impression de ne pas avoir notre argent. Il y a toujours quelque chose à payer. A-t-on réellement besoin d'une aussi grosse maison, d'une voiture, de payer une fortune pour s'habiller? Quand on commence à se demander si on a vraiment besoin de tout ça, on en arrive souvent à une réponse négative. La sollicitation publicitaire nous incite sans arrêt à consommer des biens et des services dont on pourrait fort bien se passer. Pensez aux innombrables gadgets qui ne servent qu'une fois ou à toutes les sorties qui ne font que vous fatiguer davantage. En ayant plus de temps, on pourrait dépenser moins d'argent pour faire soi-même ce que l'on paie. Je fais allusion ici au repas, au ménage, aux cadeaux, aux coupes de cheveux, aux vêtements, aux réparations de toutes sortes. Au gré de mes lectures, j'ai récolté quelques trucs que voici. En premier lieu, on pourrait se débarrasser des choses que l'on garde inutilement pour créer de l'espace. Et qui sait, peut-être déménager dans plus petit. Et moins cher. En deuxième lieu, simplifier dans le matériel de maison. Par exemple, le couvert, la literie. On pourrait aussi fréquenter une bibliothèque. Quand on magasine, attendre 30 jours pour voir si on veut vraiment l'objet qui nous tentait. On pourrait aussi éliminer les sorties qui nous grugent du temps et de l'énergie. On pourrait aussi réévaluer les tâches ménagères sous un nouvel angle. Le plancher a-t-il vraiment besoin d'être balayé et lavé? La literie a-t-elle besoin d'être lessivée chaque semaine? Est-ce un acte barbare que de mettre le même pantalon ou chandail 2 fois de suite? Faire un budget pour voir où va votre argent, c'est parfois surprenant. Cuisiner des recettes plus rapides, plus faciles. Arrêter de regarder la télé. Cesser les mondanités, lire les journaux et autres revues à potins. Fréquenter les friperies. Réutiliser le plus possible. Dans le livre « Votre vie ou votre argent », propose quelques exercices très pertinents pour changer notre relation avec l'argent. Faire le bilan de tout l'argent que vous avez fait au cours de votre vie à partir de l'enfance et évaluer ce que vous avez économisé et acquis. Le montant que vous auriez si vous vendiez tout. Évaluez ce que votre emploi vous coûte vraiment en temps et en argent et calculez votre salaire horaire réel, que ce soit le coût du transport, le resto, l'habillement, le maquillage. Avoir envie de se simplifier la vie est une chose. Arriver à le faire demande de la vigilance, beaucoup d'efforts et de l'imagination. Freiner le rythme de vie ne se fait pas en une semaine. Il s'agit ici de changer des comportements de consommation que l'on a souvent depuis des nombreuses années. Changer notre perception du travail aussi. Contrairement à ce que l'on peut penser, il est tout à fait possible d'avoir un emploi plus simple. Il faut se donner le temps de réfléchir à ce que l'on a envie de faire et d'effectuer des recherches dans ce sens. La simplicité volontaire exige un effort, mais la liberté que l'on en retire est incontestable. Moins d'argent de dépenser, moins de besoins luxueux et inutiles, moins d'heures à travailler, plus de temps pour nous-mêmes, pour ceux qu'on aime. Et surtout, plus de temps pour la vie.
Voyez-vous, n'être livré à rien dans un monde encombré, c'est périr ou souffrir de ne jamais pouvoir être complètement. Je me fis cette remarque tandis que le jeune homme assis à mes pieds cirait efficacement dans la rue gorgée de passants mes bottines en cuir de vache. L'oisif est rattaché au monde impossible, à une dimension improbable qui nie le réel. Réel dans lequel s'ancrent toutes les populations de la Terre, du moins évidemment les plus civilisées d'entre elles. Car, ne parlons pas de sel, le membre à l'air qui batifole dans l'insouciance la plus totale, près de ressources alors autant précieuses que des nappes phréatiques d'eau pure ou des filons de métaux précieux cachés dans leurs grottes sacrées. Ils se voilent la face sur le vrai monde, derrière leurs divinités de pacotille et leurs rituels païens dépenaillés et inutiles. Mais sommes-nous semblables ? Je ne puis sortir sans chaussures, ai-je pour autant sacralisé mes pieds au point de leur donner une armure splendide et d'en vénérer l'aspect ? Un jeune disciple en frôle la surface qu'il fait briller à l'aune d'un nouveau jour, et moi, le journal à la main et l'air malin, je parcours une série d'informations utiles. Utiles contrairement à l'oisif ? Je me targue d'avoir eu, tout au long de ma vie, l'instinct des raisonnements foireux, et des pensées savonnées aussi originales qu'une planche à pain. Ceci grâce à ma moustache. Elle exécute, par je ne sais quel miracle de la science, une danse frétillante le long de mes pommettes lorsqu'elle est en présence d'une pensée splendidement superficielle. Ma moustache aime à vivre dans un monde où le mot est profond et l'esprit aiguisé. Je m'étonne encore de l'avoir à cette époque. Bref, au moment où j'eus cette pensée, ma moustache toqua contre mon crâne. Utile, qu'est-ce que l'utilité ? Un oisif n'est-il point au contraire l'élément le plus important d'une société de travail ? Il en est l'antithèse approfondie, le contrepoint nécessaire. Et puis, le journal est-il utile ? S'épanouit-il chaque jour en me démontant les dernières poches de fantaisie qui riment de moins en moins dans le contrefort restreint de mon imaginaire ? L'oisif crée, le journal décrète. Pour autant que j'y pense, les deux sont essentiels. Le garçon plaça la main face à ma figure et j'y jetai quelques pièces, les moins pesantes, et ballant comme un dandy, je pris le chemin de mon chez-moi habituel. L'enfant était sans doute moins important que moi à cet instant. Mais finalement, quand chacun aura fini de jouer son rôle, la seule vraie position sera celle de l'esprit. Et l'esprit n'a pas de grade, simplement des horizons.
Bonjour monsieur, comment puis-je vous offrir un excellent service aujourd'hui ?
Bonjour monsieur, ce serait pour faire un dépôt, s'il vous plaît.
Mais c'est notre spécialité, mon cher.
J'avoue que c'est un peu délicat. J'ai décidé de vivre plus simplement, d'acheter du temps de qualité pour mes enfants. Bref, de diversifier mon portefeuille de souvenirs.
Ah, être versus avoir, telle est notre devise. Nous aidons les petits épargnants depuis maintenant 5 générations. Mais concrètement, vous reliquez quel type de produits financiers? Une hypothèque sur vos bonnes actions? Planifiez quelques souvenirs pour vos vieux jours?
Voyez-vous, je suis en plein démagasinage en ce moment et j'aurais besoin de services en devises étrangères. Le problème, c'est que j'ai rarement investi dans ma trésorerie relationnelle et mes épargnes d'actions désintéressées sont au plus bas. Vous savez, avec tout ce qu'on accumule de nos jours, démagasiner une maison, ce n'est pas évident.
Je vois. Avez-vous déjà songé aux œuvres de charité, les églises, le réemploi? Parfois, ceux-ci viennent gratuitement vous aider à vider de la chambre au grenier.
Très, très intéressant. J'ai aussi un assez grave problème de temporalité en ce moment, mais surtout avec mes jeunes enfants. Vous savez, ce genre de problème, je le nais sur 5 jours semaine, de 9 à 5.
Ça tombe bien. On a un forfait spécial pour les parents ayant envie d'offrir du temps de qualité à leurs enfants. Conciliation, vacances-travail, avec forfait de congés parentaux, tout ça à taux de rendement préférentiel.
Et ça fait une éternité que j'ai pas parlé avec ma mère.
Pour ce genre de transaction simple, nous avons un livret de 10 communications gratuites avec votre mère, renouvelable en 5 paiements faciles de 10 minutes d'écoute attentionnée, à consommer sans modération.
Wow, intéressant.
Et surtout, abordable. Vous commencez à comprendre que le bonheur, mon cher monsieur, ne s'achète pas dans une boîte de carton.
Ça me fait penser, hier, justement, un homme déguisé en panda m'a offert des câlins gratuits dans le métro. J'aimerais les faire fructifier pour semer quelques plants de petits bonheurs autour de moi. Est-ce possible?
Monsieur, c'est exigeant, mais c'est très légitime. Qualité versus quantité. Que diriez-vous d'investir dans un rire?
Vous voulez dire un REER?
Non, un rire. C'est simple et efficace. Vous marchez dans la rue, contact visuel, vous lancez un rictus. On vous rend votre risette, chasse et croisée de sourire, et voilà, vos journées sont faites.
C'est si facile que ça?
En fait, c'est tellement simple. La vie est parsemée de petits souvenirs tout simples, tout banals. Suffit simplement d'être conscient des gens autour de vous. Ouvrir une porte, rendre service, être attentionné.
Bien ça alors. Avez-vous des cartes fidélité?
Ah, mais bien sûr. Vous savez qu'être membre de notre institution a ses avantages.
Être versus avoir, vous disiez.
Seulement 5 paiements faciles, limite de 2 par client.
Aujourd'hui, donc, on va parler des mini-maisons. Alors, les mini-maisons, de plus en plus de gens en parlent. Certains sont même passés à l'acte et en ont construit. Je pensais que c'était une bonne idée, en fait, de faire un point là-dessus. Donc, tout d'abord, c'est quoi une tiny house? Alors, Mini-Maison Québec, qui est la plateforme web de référence, en fait, pour les mini-maisons, parle de 500 pieds carrés. 500 pieds carrés, c'est plutôt une micro-maison, mais une mini-maison, c'est 1000 pieds carrés, en fait. C'est en dessous de 1000 pieds carrés. Que ce soit sur roue ou sur fondation, on peut parler de mini-maison. Donc, en Amérique du Nord, c'est vrai que c'est assez peu fréquent, étant donné que les maisons et les surfaces sont assez grandes, mais il faut savoir qu'ailleurs, on a déjà en Europe ou même au Japon, on a quand même beaucoup de maisons qui sont dans des petits volumes. Mini-Maison Québec nous parle comme étant le fruit de la crise de 2008, puisque après être dépouillé de sa maison et de se retrouver avec toutes ses affaires sur le trottoir, on s'est rendu compte, finalement, que peut-être que avoir juste une grosse maison dans sa vie, c'était peut-être pas l'idéal et que finalement s'endetter sur plusieurs années, on avait peut-être envie de faire autre chose comme objectif. Donc résultat, les gens sont devenus créatifs et s'en sont dit, tant qu'à faire, on va habiter dans une mini-maison, une maison qui va nous coûter moins cher, mais aussi on va en profiter pour inventer d'autres règles, d'autres modes de vie. Donc d'autres modes de vie qui seraient basés sur limiter l'endettement, bien sûr, mais aussi une autre manière de vivre la communauté et aussi une autre manière de vivre en lien avec la nature. Au Québec, ça donne quoi? Alors, j'ai comparé plusieurs données. J'ai comparé les données recueillies sur le site Mini Maison Québec dont je parlais tout à l'heure. J'ai parlé même à Maxime Robillard, qui est l'instigateur du site web. J'ai parlé aussi avec le groupe Ascension. Alors, le groupe Ascension a lancé un sondage en ligne, en fait, qui permet aux gens de regarder ce serait quoi leurs besoins sur les mini-maisons. Donc, où est-ce qu'on aimerait qu'elles soient implantées, combien d'argent on serait prêt à mettre dedans. Et j'ai parlé aussi avec le groupe, la société Habitat Multigénération, qui est une coopérative. Donc, les trois m'ont permis d'avoir plusieurs informations, notamment que le profil des gens, ça va entre 25 et 35 ans, et aussi des retraités. Donc, les retraités qui ont des petites retraites, finalement, peu d'argent, mais aussi des 25-35 ans qui voudraient vivre autrement, tout simplement, qui ont la curiosité de faire différemment et d'éviter de s'endetter pour les 55 prochaines années. Sur le sondage de groupe Ascension, un quart des répondants sont intéressés par des maisons sur roues. Donc finalement, les trois quarts des gens sont intéressés par des maisons qui sont sur fondation. Donc finalement, des maisons comme des maisons normales, mais en taille réduite. Et ça, le porte-parole d'Habitat Multigénération me l'a confirmé, que les gens qui étaient intéressés par ce concept étaient plutôt intéressés par des mini-maisons qui apportent tout le confort, mais qui soient quand même de taille réduite pour limiter l'endettement. Donc c'est vrai que de plus en plus on voit des terrains, des promoteurs, des vendeurs de terrains qui proposent en fait des emplacements pour les mini-maisons, parce que le problème de la mini-maison, que ce soit sur roue ou sur fondation, c'est la législation. Parce que à partir du moment où on est en mini-maison, donc avec une taille restreinte qui ne répond pas aux nécessités des permis d'obtention des permis d'urbanisme, on est en zone grise, en fait. Donc ces maisons-là n'obéissent pas aux besoins d'avoir des permis et on ne paye pas de taxes. Donc pour les villes, c'est un gros manque à gagner. Donc finalement, c'est justement le but des promoteurs, c'est de devenir un intermédiaire qui permettra aux intéressés et aux mini-promoteurs de pouvoir se simplifier la vie en termes de procédure. Ne plus être obligé de eux-mêmes aller regarder les règlements d'urbanisme, mais de faire affaire tout simplement avec des promoteurs. Donc quand je pense à des promoteurs, je pense à Habitat Multigénération, notamment, qui offre un intermédiaire intéressant, puisqu'ils offrent non seulement des emplacements, mais aussi une philosophie différente. C'est pas juste un... Enfin, si vous voulez tout simplement acheter un terrain et implanter une maison dessus, ce sera possible, mais vous pouvez aussi implanter une mini-maison sur fondation ou sur roue. et bénéficier en fait d'un mode de vie qui soit assez différent, puisqu'ils mettent en place des jardins collectifs et d'autres manières aussi de vivre en communauté. Les villes, en fait, de plus en plus, comme j'ai parlé tout à l'heure, ont observé qu'il y avait un risque, un manque à gagner, en fait, dans l'installation des mini-maisons. Mais de plus en plus, elles s'intéressent aussi à ce phénomène, puisque, au lieu de le combattre, elles se sont rendues compte qu'elles avaient aussi quelque chose à en tirer. Mini-maisons Québec, Habitat Multigénération et aussi Habitat Microévolution se sont rendus compte que les villes pouvaient être un allié de taille. Et Mini Maison a lancé d'ailleurs un festival, le festival de Lantier, du 26 au 29 juillet. Et donc, dans ce festival, vous pourrez aller voir tout simplement si vous aimez cette manière de vivre et voir en quoi ça ressemble une Mini Maison. Et ils ont aussi invité des villes qui pourront elles-mêmes venir voir, se rencontrer en fait pour regarder qu'est-ce qu'il est possible de faire par rapport aux Mini Maisons. Pour terminer, en fait, j'aimerais bien parler de deux exemples que j'ai trouvés particulièrement intéressants et qui rendent la vision des mini-maisons comme étant un projet totalement réalisable. Mon amie Julie, qui vit dans les cantons de l'Est, et elle s'est installée avec son copain dans une roulotte. Et son amie, pour lui prouver son amour de manière totalement architecturale, lui a offert une mini-maison. Étant charpentier, c'était pour lui un joli jeu de construction. Et sa mini-maison a pris à peu près 500 heures pour être sur pied et a coûté 10 000 $, en sachant que chacun a une roulotte et que leur loyer coûte 150 $ par personne par mois. Ils vivent tous les deux sur un terrain et ce terrain appartient à un propriétaire, ils lui payent un loyer et ils ont en échange accès à l'eau. Ils vivent avec aussi des panneaux solaires comme étant source d'énergie, ils ont un poêle à bois et ils ont aussi des toilettes sèches en fait pour alimenter le compost. Elle m'a dit que la contrainte, c'était effectivement le froid, mais c'est assez vite résolu grâce au poêle à bois. Il faut se lever la nuit pour pouvoir remplir son poêle à bois. Il y a aussi la contrainte du lien avec l'eau. Au Québec, c'est vrai que le lien avec l'eau est assez problématique, étant donné que l'hiver, il fait très froid. Donc avoir l'accès à l'eau par rapport à un propriétaire, c'est un gros atout. Et deuxième exemple, j'aimerais parler en fait d'un couple qui est pour moi très inspirant. Leur histoire est racontée sur le site So Curious. Si vous allez voir, en fait, les photos de la mini maison sont juste magnifiques. Tout est en bois, bois récupéré, palettes avec des cages, des boîtes pour les pommes à l'intérieur. Enfin, tout est vraiment très intéressant. En termes architectural, il y a tout. Il y a absolument tout ce qui est nécessaire dans une maison se trouve dans leur mini-maison, et leur mini-maison est une maison sur roues. Donc les deux, en fait, en avaient marre de leur travail, ne se réalisaient pas, avaient une maison qui leur coûtait cher. Donc résultat, ils ont tout vendu ils sont partis sur les routes avec leur mini-maison et ont commencé à se réaliser. Ils ont même réalisé finalement toute une série de photos sur d'autres manières d'habiter, des gens qui habitent dans les yourtes, qui habitent dans les bateaux, qui habitent dans les maisons, dans les arbres. Finalement, en conclusion, on peut voir que les mini-maisons, c'est non seulement un projet qui, au niveau architecture, est très intéressant, mais qu'en plus, il amène d'autres manières de consommer et de concevoir sa vie, des manières d'envisager la communauté et le lien avec la nature. C'est un petit peu les choses qu'on retrouve pour les propriétaires, en plus de limiter l'endettement, ce qui permet aussi aux gens de profiter de la vie de manière différente. Pour terminer, je vous encourage donc à aller voir la page web de Mini-Maison Québec et regardez, retenez les dates du 26 au 28 juillet pour aller voir du côté de Lantier, commencer une mini-maison et regarder tout simplement si ça vous plairait d'y vivre.
I've got starts loving all the bees in the tree. I've got a sweeter song that I can sing the new birds in the tree. Oh, I guess you will say, ooh, what can make me feel this way? It's my girl talking about.
En ce temps-là, on mettait des photographies géantes sur les murs. Les arrêts d'autobus, les camions, les taxis. L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire. Et on avait calculé qu'entre la naissance et l'âge de 18 ans, toute personne avait été exposée en moyenne à 350 000 publicités. Il avait fallu 2000 ans pour en arriver là.
Avertissement. La télé vous ment.
Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton.
Il était devant elle, elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre. Heureux de se sentir ému, ému de se sentir heureux.
La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Et la petite provinciale romantique n'aura pas besoin de venir à Paris pour y rencontrer son idole. Elle l'aura sur sa table de nuit. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Actuellement, nous sommes empoisonnés par les gens qui laissent crier leur TSF, qui nous réveillent avec des marches héroïques. Ou qui, tandis que nous travaillons, nous assomment avec des comptes rendus sportifs.
Qui le passe à Fernand, qui le passe à Isidore, qui le passe à Jules.
Et l'image traversera les murs, ira se promener chez le voisin. On trouvera un match de boxe dans la soupière. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon.
Cyprien, je te défends de caresser les images.
Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu un reportage d'Aurélie sur les mini-maisons, un texte sur la simplicité volontaire, et juste avant la pause, Barjavel nous avait prédit en 1947 les téléphones intelligents dans la télévision œil de demain.
À venir dans la deuxième partie, l'esprit lutté à travers les âges, le cas du boulanger breton et l'utopie des adamites.
Pour conclure ce deuxième épisode, Annick Desnio nous partage une tranche de vie avec hommage aux pirates de Schlager.
This is where mechanical excellence, 1,400 horsepower pays off.
Bon, le réservoir est plein. Le silencieux pétarade comme une mitrailleuse enrayée. En sirotant mon café, couleur mazout, je regarde l'autoroute où filent les voitures. Elles sont comme des bouteilles de vitres géantes glissant le long de l'asphalte noir. À l'intérieur des bouteilles, je vois des humains stressés. Et ça tourne lentement sur l'échangeur, deux par deux ou bien seul, deux par deux ou bien seul. Où j'allais déjà? Ah oui, L'éco-village, un monde meilleur. Pourtant, ceux qui dirigent ici les bombardent au napalm et rien ne semble indiquer que ça va changer. Vu du ciel, la ville est une immense machine faite de conduits de goudron parcourus de gouttes d'acier qui irriguent des tonnes de magasins, d'appartements et de bureaux. Oui, je suis bien devant le moteur à explosion de la ville et ça enterre même le bruit de la télé accrochée au-dessus de la tête de la serveuse.
Comment vos œufs?
Miroir. Et eux, où vont-ils donc tous? C'est simple pourtant, ils vont comme chaque matin produire des produits et des services plus ou moins utiles qu'ils vendent pour payer leur voiture et leur maison. Ils donneront pendant leur existence plus de 6 années de leur vie active pour payer leur voiture et plus de 11 pour leur habitation. Et pour se distraire, pendant le peu de temps qu'il leur reste, ils magasinent les produits et services superflus que les autres ont produits comme eux. Tiens, justement sur la télé, encore une de ces pubs pour les motiver à acheter. Normal, ces pubs, puisque pour payer la voiture et la maison des autres, ils devront travailler encore plus que ces 16 années dont j'ai parlé et devront acheter à tout prix le travail des autres. Et ce même s'ils n'en ont pas vraiment besoin. C'est une entente tacite, voyez-vous. Ce qui, pour la plupart, ne fait pas leur affaire. Alors autant subir un lavage de cerveau pour ne pas sentir la douleur de ce mal de vivre imposé. Ceux qui n'auront pas la chance de vendre leur travail se retrouveront sur le trottoir à marcher sans but en respirant la pollution des autres. Tant de temps et de vie perdus pour aller simplement travailler et se protéger du froid. Que faire? Pourquoi ne pas simplement éliminer la maison ou la voiture et ainsi les libérer un peu? La maison, par exemple.
C'est le genre de monde qui est imaginé dans les manches bitumes. Une bande dessinée de science-fiction des années 70 qui imagine un monde où nous serions tous, toujours, sur l'autoroute, à tourner en rond, 24 heures sur 24, dans des motorhomes avec autopilote, à manger dans des drive-in et à se divertir dans des cinépas. Dans ce paradis, la presque totalité du territoire est pavée de routes et, sur le peu de verdure qui reste, l'agriculture est faite par de gigantesques moissonneuses, batteuses, usines alimentaires automatisées. C'est aussi le genre de monde qu'imagine le groupe de discussion Alt Pave the Earth, qui se creuse et ménage depuis longtemps pour faire de la Terre un paradis pour les voitures. Je vous conseille d'aller tout de suite sur leur site internet pour rencontrer ces humains qui ne veulent rien de moins que de paver d'asphalte la Terre entière.
Une autre alternative est d'éliminer le deuxième gadget, la voiture.
Je vis dans un pays où on vend plus de 500 voitures par jour. Il est aussi difficile de se débarrasser de la voiture que d'arrêter de fumer. Ni Henry Ford ni les urbanistes n'avaient prévu qu'il y en aurait autant. Car même si les humains n'ont pas trop de difficultés à partager la route et l'air pollué, ils partagent difficilement leur voiture et le reste. Peut-être que, comme pour les habitations, les coops sont un début de solution pour s'adapter à la réalité d'un monde où il vaut mieux être en vie qu'avoir et mourir. Si je veux vraiment diminuer ma consommation de voiture, les méthodes recommandées par le docteur sont généralement le transport en commun, les taxis, le covoiturage, allostop, communauto, le télétravail et bien sûr, le vélo.
Bon, assez de discours, je passe à l'action. J'ai fini mon déjeuner et je crois que je vais abandonner ma voiture là et repartir à pied. De toute façon, c'est définitivement le printemps. Malheureusement, mon vélo grogne-grince d'avoir été abandonné tout l'hiver sous la neige. Il faudrait que je le retape pour pas cher. Heureusement pour ça, il y a la Voie Libre, une coop vélo créée par les étudiants de l'Université de Concordia. Tous les outils professionnels sont là, bien rangés, à ma disposition. On m'aidera même dans la réparation de mon vélo, car il y a toujours des mécaniciens là pour m'aider et me montrer gratuitement comment faire. Ils semblent aussi habiles pour balancer une roue qu'une planète. On y entend souvent des conversations savantes sur les problèmes du monde et sur des solutions concrètes. Je peux utiliser des pièces récupérées, gratuites elles aussi, bien classées dans des tiroirs ou acheter des pièces neuves à prix modique. Je peux aussi laisser sur place mon work in progress, le temps de finir de l'assembler pour une période maximale de 6 mois. Je peux même faire un essai gratuit d'atelier que la cotisation annuelle n'est que de 20$. Par contre, comme je dois encore partager la route avec les voitures, je dois faire attention car, selon l'OMS, la pollution due aux voitures tue davantage que les accidents de la route. En attendant que l'humanité ait trouvé une solution pour me protéger, il y a toujours les masques à gaz pour cyclistes. Chaque année, il y a un tour de l'île de Montréal, une journée presque sans voiture. Peut-être un jour, il y aura le jour des voitures, puisque tous les autres seront pour les vélos. On peut toujours rêver.
Un texte de Christian Fleury, tiré de Aube, le recueil de solutions.
Never knew how much I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us.
L'esprit du thé à travers les âges. Élixir millénaire, boisson la plus consommée dans le monde, après l'eau, le thé fait de plus en plus partie du quotidien de nombreux Occidentaux. J'aimerais vous partager ma passion pour cette plante stimulante pour le corps et l'esprit et apaisante pour l'âme. En 2737 avant Jésus-Christ, Bodhidharma, le père du bouddhisme, faisait bouillir de l'eau pour la purifier à l'ombre d'un arbuste. Le vent se leva, faisant virevolter une feuille de l'arbuste jusque dans sa casserole de fer. Circonspect mais charmé par l'arôme qui s'en dégagea, Bodhidharma goûta et découvrit le thé. Boisson née de la réunion de cinq éléments, terre, eau, bois, feu et métal. Dès le départ, donc, le thé se trouve intimement lié à la spiritualité. Les moines bouddhistes l'utilisaient pour maintenir leur esprit alerte pendant les longues heures de méditation ou pour l'énergie qu'il leur procurait lors des pèlerinages. Les effets du thé sur la santé sont connus bien avant ses qualités gustatives. Considéré d'abord comme une plante médicinale, les Chinois le consomment pour contrer la fatigue, pour faciliter la digestion, aider à la concentration, ralentir le processus de vieillissement et chasser les humeurs maussades. En externe, on en faisait des cataplasmes pour soigner les rhumatismes et certaines infections. Il fut même considéré par les taoïstes comme un élixir d'immortalité. À partir du 4e siècle, on utilise le thé comme aliment, mélangeant les feuilles fraîches à des épices, du riz ou des herbes pour en faire une soupe nourrissante. Ce n'est qu'au 8e siècle, avec Lu Yu, premier grand maître de thé chinois, que la façon de consommer le thé changera radicalement. Celui-ci tient le thé en haute estime et énonce dans son classique du thé des manières de transformer et de déguster la plante qui respecte ses qualités gustatives. Fini les ajouts de toutes sortes, le thé se boit seul avec une eau de source et les feuilles de qualité doivent briller comme un lac effleuré par le zéphyr. Parti en Chine pour s'imprégner du bouddhisme Chan, des moines japonais vont découvrir conjointement le germe de ce qui va devenir le zen et leur goût pour le thé. ils rapportent de leur pèlerinage quelques boutures qu'ils plantent aux abords de leur monastère et auxquelles ils offrent mille et un soins. La culture du thé se répand pendant des centaines d'années, l'art de le préparer également, et c'est au Japon qu'on trouve encore aujourd'hui à travers le chado, la voie du thé, et dans sa pratique, le chanoyu, la plus haute expression de respect et d'hommage à la nature. Au 16e siècle, Senno Rikyu est le premier maître à énoncer les règles de la pratique du thé au Japon. À première vue, le chanoyu paraît austère et rigide. Chaque geste est réglé avec une extrême précision et une grande droiture. Les rapports entre l'hôte et les invités peuvent sembler protocolaires et une seule rencontre peut durer jusqu'à 4 heures. Mais comme dans toute discipline, c'est par le cœur que l'apprentissage réel s'opère. Ce ne sont pas des actions ou des performances que Rikyu énonce comme principes fondamentaux à la préparation du thé, mais des valeurs humaines, le respect, l'harmonie, la tranquillité et la pureté. Il montre comment tout l'être, dans le geste de boire le thé, entre en communion avec les autres, la nature et Dieu. La porte de la chambre de thé est si petite qu'il faut s'incliner pour y entrer, en signe d'humilité. Au temps des samouraïs, ceux-ci n'avaient alors d'autre choix que de laisser leur sabre à l'extérieur. Chacun des gestes a une portée spirituelle et démontre un profond respect pour la vie. On salue les fleurs, arrangées naturellement, pour honorer la plus belle création de la nature. On salue la calligraphie ou la peinture, car l'esprit de l'artiste plane en ces lieux et donne le ton de la rencontre. Les objets du thé sont tour à tour examinés, honorés. Le thé est bu en silence après qu'il ait été offert au Créateur. Pendant longtemps au Japon, les arts et la vie ne faisaient qu'un. La spiritualité était indissociable de la pratique, que ce soit des arts martiaux, des arrangements floraux ou du thé. J'ai choisi de vous présenter sommairement cette approche, car pour moi, elle représente l'essence de la potentialité contenue en chaque humain et dans chaque feuille de thé. Si, bien sûr, on s'ouvre à ses secrets dans un esprit détendu et de partage. J'aurais pu aborder le rituel du thé marocain, le thé chai indien, le 4 o'clock tea, des Anglais, ou la pratique presque religieuse de nos grands-parents pressant leur poche de thé au fond de la tasse. Ce ne sont que d'autres manifestations culturelles de l'esprit du thé, cet art de vivre et de recevoir, où la notion d'ici et maintenant prend tout son sens. La seule façon de préparer le thé convenablement, c'est de s'arrêter, de respirer, et d'ouvrir son cœur.
Il était une fois, dans un pays pas si lointain, un boulanger qui était prisonnier de son métier.
Ma vie, c'est pas que boulanger. J'ai envie d'être musicien et passer du temps avec la musique, et puis envie d'être jardinier et de faire du jardin. Tout ça, ça demande du temps. À 24 ans, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce métier de fou, où on voit pas le jour, pas de loisirs, 18 heures par jour, faire des baguettes à la chaîne, ça a pas de sens.
Un matin, le boulanger a choisi de se libérer. Il a décidé de se concentrer à faire du pain, plutôt qu'à faire de l'argent.
J'ai tout de suite vu que c'était pas possible d'à la fois les mains dans la pâte et les mains dans la caisse. Donc, le premier jour, j'ai mis la caisse sur le pétrin. Et j'ai demandé aux gens de se rendre la monnaie eux-mêmes. Mon idée à moi, c'était de rendre le lieu plus convivial, autogéré, comme c'est maintenant. Ça m'a aidé à instituer un système de commande qui évite les pertes de pain, qui permet, moi, de savoir qu'est-ce que j'ai à faire dans ma journée et qu'il ne reste pas de pain dans les étagères le soir. Vendre le pain, c'est autant de temps que de le fabriquer. Soit faut quelqu'un au magasin, soit faut aller faire les marchés, autant de temps. Donc donner la caisse aux gens, qui est un geste simple que tout le monde peut proposer, divise le travail en deux. Ça explique déjà beaucoup comment je peux, moi, nourrir ma famille, entretenir ma maison, en travaillant que deux jours. Je compte jamais ma caisse le soir, pour pas me faire de soucis avec l'argent. Cette tranquillité-là que je me suis donnée m'a bien récompensé, parce que c'est assez étonnant, mais j'ai jamais eu de problème d'argent.
Aujourd'hui, le boulanger vit libre et heureux.
Après avoir été tant prisonnier, j'ai connu le goulag de la boulange. Tant mieux, parce que ça m'a permis de rencontrer ce que je cherchais dans ma vie, c'est la liberté. Qu'un métier n'est pas là pour nous emprisonner, mais pour nous rendre libres.
L'histoire de Daniel, le boulanger qui réinventa son métier pour se libérer, a d'abord été rapportée dans le magazine Sideways, à l'épisode 8, pour pouvoir aller voir l'ensemble de l'aventure de Daniel telle qu'elle est rapportée dans le magazine. Référez-vous au lien sur notre site internet ou allez directement sur le side-waves.net.
En 420, s'est produit en Bohême la révolte des Hussites. Précurseur du protestantisme, il réclamait la réforme du clergé et le départ des seigneurs allemands. Un groupe plus radical se détacha du mouvement, les Adamites. Eux remettaient en cause non seulement l'Église, mais la société tout entière. Ils estimaient que la meilleure manière de se rapprocher de Dieu serait de vivre dans les mêmes conditions qu'Adam, le premier homme, avant le péché originel, d'où leur appellation. Ils s'installèrent sur une île du fleuve Moldo, non loin de Prague. Ils y vécurent nus, en communauté, mettant tous leurs biens en commun et faisant de leur mieux pour recréer les conditions de vie du paradis terrestre avant la faute. Toutes les structures sociales étaient bannies. Ils avaient supprimé l'argent, le travail, la noblesse, la bourgeoisie, l'administration, l'armée. Ils s'interdisaient de cultiver la terre et se nourrissaient de fruits et de légumes sauvages. Ils étaient végétariens et pratiquaient le culte direct de Dieu, sans église et sans clergé intermédiaire. Ils irritaient évidemment leurs voisins hussites qui ne prisaient guère tant de radicalisme. Certes, on pouvait simplifier le culte de Dieu, mais pas à ce point. Les seigneurs hussites et leur armée encerclèrent les Adamites sur leur île et massacrèrent jusqu'au dernier ces hippies avant l'heure.
Un texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. BernardWerber.com.
En Hochelagadie, quand le soleil se tanne de ne pas avoir été, on se réjouit drette à la pointe de son audace en se la montrant. Au complet. Pas de bretelles, pas de tabou d'aisselle, ni de doute sur le format ou la tension de l'épiderme. On se la sort, point. Bédaine d'abord, on se retrouve dehors. L'origine de quelques-uns exhibés et fiers. Comme si on était toute la gang sur le balcon de l'un puis de l'autre. Élément du patrimoine local, que dis-je, véritable légende. Ma préférée, ben, la bedaine, je vous le rappelle, est sans aucun doute celle du pirate unijambiste hirsute. Homme marge à la peau de cuir, au vécu pas lisse, pas liché, il pose souvent sa patte droite de plastique, indépendamment du reste de son corps, sur le banc public. Paradoxe d'attachantitude malgré l'air qu'il se donne. Assez pour prendre un pli, il nous pousse la chansonnette, cigarette au bisou, en s'arrêtant parfois pour nous offrir une parabole botchée.
Jésus vous aime!
Pendant plusieurs années, on avait un violoniste à trois cordes, trois tunes. Il grinçait partout dans le quartier avec passion, en faisant des chiffres de 12 heures sous la pluie. Mark, qui s'appelait. Ben, il me semble. Vous demanderez à mon fils, c'est lui qui a la mémoire des prénoms. Moi, je l'appelais l'homme violon. Ben, l'homme violon, on l'a perdu. Mais on a gardé notre pirate. Et notre pirate crie doux. Comme quelques autres, d'ailleurs. Pour moi, ces gens-là mettent du vif sur le bitume et veillent. Sur nous, les passants et les dormeurs. Étrangement ou candidement, peut-être. Plus que le silence d'une ville qui fait trop de ménage, ces êtres me charment et me rassurent.
Texte et narration, Annick Daigneault.
C'est ce qui conclut l'épisode 2 de Aube. Toutes nos émissions sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via iTunes, laplumedefeu.com ou via SoundCloud.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci. Chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez 2 secondes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lamb, Philippe Laramé, Jean-Baptiste Gardarin, Annick Daigneault, Aurélie Suberchico et Caroline Legault.
À la co-réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.